Bonjour à tous, donc je suis Candice Reca, je suis la chef du service de la régie des œuvres du Centre de conservation du Louvre à Liévin. Je voulais vous présenter rapidement ce qu'était le Centre de conservation du Louvre avant de parler un peu de transport et circulation des œuvres d'art. Donc j'interviens avec mes collègues aujourd'hui de chez Bovis et du Centre Pompidou et c'est vrai que ce matin en discutant on s'est dit que commencer par la réserve c'était un peu le point de départ de tout ce qui est transfert et transport d'œuvres d'art. Voilà pourquoi je commence. Donc déjà, je voulais vous dire que le Centre de conservation du Louvre, c'est une direction déléguée du Musée du Louvre. Moi, je suis embauchée par le Musée du Louvre, le musée à Paris, ce qui n'est pas le cas du Louvre-Lens. Le Louvre-Lens est une autre institution avec une entité juridique différente et ça me semble important de vous le préciser avant de continuer parce que on a souvent des petits amalgames sur ce sujet. Donc le centre de conservation, c'est la réserve externalisée du musée du Louvre Paris. Et c'est un bâtiment qui est relativement récent puisque le centre a ouvert ses portes en 2019. Il a ouvert ses portes parce qu'il y a eu plusieurs constats qui ont été faits au niveau du palais du Louvre où était conservée la grande majorité des collections du musée. Donc l'un des premiers constats, c'est ce que vous voyez sur la petite carte à côté de Nancy. Donc vous voyez un plan du musée du Louvre, avec la pyramide ici et la cour carrée ici. Et tous les petits carrés de couleur, c'était les différents espaces de stockage du musée du Louvre à Paris. On retrouve le musée du Louvre ici sur cette carte, et là vous reconnaissez la scène. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des œuvres d'art qui sont réparties à peu près partout dans le palais du Louvre et surtout une proximité avec la Seine qui était vraiment très importante et notamment des risques de crues donc, que vous allez voir apparaître sur la petite carte de gauche. Donc vous voyez apparaître en rouge donc ici les zones touchées du palais en cas de première phase de crue de la Seine. Et c'est ce qui s'est donc passé en 2016. Donc toute cette partie-là du palais, au moment où la Seine a fait sa crue en 2016, a été inondée. Donc ça, c'était juste la première phase de crue de la Seine. Et en cas de seconde phase, là, on voit que c'est quasiment tout le palais qui peut être touché par les crues, à l'exception pour l'instant de la cour carrée. Donc, premier constat, on est dans une zone inondable à Paris, on a des œuvres à peu près dans tous les espaces et qui ne sont pas conservées de la meilleure des manières possibles. Donc là, je vous ai mis différentes photos des différents espaces de stockage qui existaient au palais. Il y avait donc à peu près 68 espaces de stockage au palais. Et puis, il y avait aussi des réserves externalisées, notamment chez Bovis. Mais aussi dans d'autres lieux, à Châlons-en-Champagne, à Versailles. Et donc l'idée de créer le centre de conservation du Louvre, c'est de réunir toutes les collections du Louvre en un seul et même endroit, à Liévin, à 204 km du palais, ce qui a été un grand événement, et de les rendre, de leur proposer en tout cas des conditions de conservation beaucoup plus satisfaisantes que ce n'était le cas avant. Donc voilà du constat duquel on part pour arriver à donc la volonté de créer un seul lieu unique de conservation, hors risque de crue, ce qui est le cas à Liévin, pour stocker les collections non présentées au public, initialement dans une durée moyenne à longue et pas de courte durée pour le centre de conservation. Donc à ce moment-là, il y a tout un tas de villes qui candidatent en France pour recevoir la réserve du musée du Louvre. Et c'est finalement Liévin qui gagne ce concours parce que le Louvre-Lens est déjà créé à côté de là où se situe aujourd'hui le centre de conservation du Louvre et parce que la région, le département et la communauté d'agglomération mettent tout en place pour être vraiment attractif pour accueillir le CCL à Liévin. L'un des exemples d'attractivité, c'est que la région a presque offert le terrain sur lequel est construit le centre de conservation du Louvre aujourd'hui, puisqu'il a coûté 1 euro au Louvre, en termes simplement fonciers. Donc voilà pourquoi on est à Liévin aujourd'hui, à 204 km du Louvre Paris, ce qui est quand même un vrai sujet en termes de transport et de circulation des œuvres d'art. Et je vais vous expliquer un peu plus tard comment on fait circuler les œuvres entre Paris et Liévin. Donc en 2013, on travaille, à partir des années 2013, on travaille avec un programmiste qui s'appelle Frédéric Ladonne, qui essaye de nous établir le programme de ce que vont être les réserves du musée du Louvre, à partir du cahier des charges qu'on lui a transmis côté musée du Louvre. Donc l'idée, c'est de créer un espace de conservation, donc des réserves, des espaces de traitement, donc plutôt des ateliers de restauration, toute une zone logistique pour accueillir les œuvres d'art, et des espaces aussi de consultation et de recherche pour les chercheurs qui viendraient au centre de conservation du Louvre. Donc voilà un tout petit aperçu du programme qui a été établi entre 2013 et 2014. Et il en ressort le plan que vous voyez ici. Donc ça, c'est le plan du centre de conservation du Louvre aujourd'hui, avec presque 10 000 m² d'espace de réserve, des ateliers de restauration. En violet, c'est toute la zone logistique. Et en vert, en haut, c'est les espaces d'accueil, nos bureaux, etc. Donc c'est un bâtiment qui a été construit pour être entièrement une réserve. Donc tout est absolument de plein pied. On a des immenses accès. Donc on a pu accueillir, pas les œuvres du Bilbao, mais on a des œuvres de très grand format aussi au CCL. Et donc toute cette partie-là est exposée à la lumière du jour. Donc tous les ateliers de restauration sont face à la lumière du jour. Et puis derrière, vous avez 6 espaces de réserve différents qui accueillent différentes typologies d'œuvres. En fonction de leur matérialité, donc elles sont réparties de la manière suivante dans les espaces. On a des réserves organiques et des réserves inorganiques et des réserves de petits et de moyens formats. Donc plus on avance dans le fond du bâtiment, plus notre plafond s'abaisse, et donc dans le fond du bâtiment, ce sont les œuvres de petits formats, et dans cette partie-là du bâtiment, ce sont les œuvres de très grands formats. Donc là, vous voyez à nouveau un plan, mais avec cette fois-ci des photos de mobilier, puisque chaque réserve a un mobilier adapté aux collections qu'il stocke. Donc dans les réserves R1 et R2, qui sont les réserves de grand format, on a ce qu'on appelle des compactus, ce qui nous permet de stocker sous une grande hauteur des œuvres de très grand format et avec un poids important. On a aussi des grilles grand format pour les œuvres 2D en réserve R2. Et puis, plus on avance dans le fond du bâtiment, plus les mobiliers sont petits pour accueillir vraiment parfois de tout petits objets. Donc là, je vous ai mis les différentes phases de notre déménagement, puisque ça a été quelque chose quand même de déménager une partie des collections du Louvre. Pour rappel, le Louvre, on parle de 500 000 objets qui sont dans la collection. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de la moitié qui se situe au centre de conservation du Louvre à Liévin. Donc ce déménagement, il a pris plusieurs années et on est encore dans la phase 3 aujourd'hui. Et il a été marqué par tout un tas d'événements. Donc pour revenir en 2017, c'est le moment le début de la construction du centre de conservation du Louvre. Et le chantier dure 2 ans. Le CCL ouvre ses portes en 2019. Donc les déménagements commencent en 2019 avec la première phase qui est de vider toutes les œuvres qui sont en réserve inondable du palais. C'est la priorité, notamment après la crue de 2019. Donc ça représente un peu moins de 200 semi-remorques et c'est 110 000 œuvres qui arrivent dans cette première phase du déménagement. Cette première phase, elle est marquée évidemment par le Covid qui donne un petit coup de ralenti, ce qui n'est pas plus mal d'après ce que j'ai compris des retours d'expérience de mes collègues. Ça nous permet de mieux redéployer les œuvres au centre de conservation du Louvre, parce qu'on était quand même sur un rythme important d'arrivée d'œuvres par semaine. Ce déménagement qui se stoppe là, ça nous permet d'optimiser en tout cas, de commencer à optimiser les espaces au centre de conservation du Louvre. En 2021 commence une deuxième phase qui est une phase où on vide à la fois les réserves externalisées chez un prestataire qui s'appelle Chenu et aussi les réserves visibles et visitables du musée du Louvre-Lens qui est donc notre voisin. Et tout ça arrive au CCL. Cette deuxième phase, elle est marquée à la fin par le début de la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui en découle avec, pour le Louvre, mais pour tout un tas d'autres établissements, des factures énergétiques auxquelles il faut faire face, et ce qui n'était pas du tout prévu dans les budgets initiaux. En 2021, il y a une nouvelle direction qui arrive au musée du Louvre. Alors ça, c'est toujours un grand chamboulement. Donc c'est l'arrivée de Madame Laurence Descartes. Entre-temps, on a à nouveau changé de présidence. L'arrivée de cette nouvelle direction, c'est la création d'un nouveau département pour le musée du Louvre, qui s'appelle le département des antiquités de Byzance et des chrétiens d'Orient. Pour nous, ça veut dire des espaces qu'on n'avait pas forcément prévus dans le projet initial du centre de conservation du Louvre. Donc ça nous demande de nous adapter un petit peu pour recevoir des nouvelles œuvres qui rentrent dans la collection du musée du Louvre. Les petites étoiles jaunes, c'est nos événements internes au Louvre, puisque au moment de l'arrivée de la nouvelle direction, il y a plusieurs grands chantiers qui sont déjà lancés, notamment des déménagements de salles entières au musée du Louvre, celle du parcours romain, la création du DAPCO dont je viens de vous parler. Et pour toutes ces phases-là de travaux, le centre de conservation se veut être la base arrière du palais et de pouvoir recevoir les œuvres et les stocker temporairement au CCL avant qu'elles ne retournent au palais une fois que les travaux sont terminés. Là, il y a un sujet qui est intéressant, je pense, pour notre journée, c'est les demandes d'hébergement qui arrivent un peu après le début de la guerre en Ukraine. Et donc, depuis quelques années, le centre de conservation se veut également devenir une réserve refuge. Donc, ça fait quelques mois maintenant qu'on accueille des œuvres d'Ukraine et on se prépare à en recevoir d'autres aussi. Il y a d'autres institutions en France qui travaillent sur ce sujet, notamment la BNF. L'idée, c'est dans une coopération européenne de pouvoir répondre aux demandes urgentes de nos voisins européens qui veulent protéger et évacuer les œuvres de leur pays qui sont en guerre ou qui vont l'être. Voilà, une troisième phase de travaux en tout cas au palais, qui est la fermeture des salles du département des arts de l'islam, qui implique aussi le déménagement de toutes ces salles vers le centre de conservation du Louvre. Et donc la dernière phase du déménagement dans laquelle on est encore, c'est de vider toutes les réserves externalisées qui étaient hors Paris vers le centre de conservation du Louvre. Et donc là, vous avez les différents noms des villes où nous étions. Et Bondoufle, c'était donc chez Bovis, chez Nancy. Je passe sur les alouettes. Et puis depuis quelques mois, nous sommes très pris par le projet Louvre Nouvelle Renaissance qui a été annoncé par le président de la République, qui est de créer une nouvelle entrée au musée du Louvre, côté grande colonnade, et de créer surtout une salle dédiée à l'exposition de la Joconde. Ça va impliquer de grands travaux, notamment dans tout ce qui est espace de la cour carrée. On va devoir vider entièrement les salles de ces espaces et qu'on imagine du coup accueillir au CCL qui, pour tout vous dire, est déjà bien rempli. Je vous présente très rapidement l'organigramme du centre de conservation du Louvre. Donc, comme je vous le disais, c'est une direction déléguée du musée du Louvre Paris. C'est donc ma directrice Marie Marguerite qui est à la tête du centre de conservation du Louvre. Et en tout, on est 16 personnes à travailler au CCL, avec un service de la régie des œuvres, un service du bâtiment et de la sécurité, et un service administratif et financier. Je vous explique très rapidement comment on fait pour travailler à 200 km de nos collègues parisiens. Notre logique, c'est d'abord que ce soit nos collègues qui se déplacent plutôt que les œuvres. Et ça me semble important de le préciser. Donc, c'est nos collègues parisiens qui viennent au centre de conservation du Louvre pour travailler sur les œuvres, pour faire des traitements de restauration, pour préparer les transports avec nous. Et donc pour ça, on a mis en place un peu une gestion à distance de l'équipe. Donc j'ai trois régisseuses dans mon équipe qui sont toutes référentes de départements parisiens à Paris. Donc ça permet de créer des liens d'entrée beaucoup plus faciles pour nos collègues de Paris avec nous au CCL. On échange beaucoup entre les chefs de régie du centre de conservation du Louvre et les chefs de régie parisiens. On essaye en fait de faire circuler l'information, et c'est pas toujours facile déjà en interne dans un établissement. Alors à 200 km de nos collègues de Paris, ça l'est encore moins. Donc c'est un travail quotidien. Ça n'a pas été facile pour le musée du Louvre de voir sa réserve déménager à 200 km du palais. Ça demande beaucoup de diplomatie avec nos collègues de Paris. Et c'est toujours un sujet sur lequel on travaille aujourd'hui. Et donc, comme je vous le disais, notre priorité, c'est plutôt de faire déplacer les gens que les œuvres. Et donc, pour ça, il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place. Les collègues de Paris viennent en train au centre de conservation du Louvre. On va les chercher à la gare, on les nourrit. Enfin, toutes leurs missions sont entièrement préparées par mes collègues du service administratif et financier. Et ça paraît anecdotique, mais c'est vraiment hyper important de les recevoir dans les bonnes conditions et de faire en sorte que tout soit le plus facile possible pour eux quand ils viennent au centre de conservation du Louvre. Quand ils ont besoin de rester plusieurs jours, ils sont aussi logés dans une maison d'hôtes qui est adjacente au centre de conservation du Louvre. Et nous, on est là pour faciliter leur vie à 100%. Là, je vous ai mis quelques chiffres des 5 premières années de l'activité du centre de conservation du Louvre. Donc en 2024, on était à 246 000 œuvres conservées au CCL. On en est un petit peu plus maintenant. Et ça me permet de vous expliquer un peu comment on fait pour gérer les transferts des œuvres entre Liévin et Paris. Et donc pour ça, on a un système de navette que vous voyez ici. Et sur lequel on travaille avec la société Bovis. C'est donc Bovis, notre prestataire de transport, qui nous permet de faire les transferts des œuvres entre Paris et Liévin une fois par mois, sauf en août et en décembre. Et c'est comme ça qu'on fait circuler les œuvres entre le palais et Liévin. Ça marche plutôt bien. Là, vous voyez dans ces petits chiffres ici le nombre d'œuvres qui circulent entre Paris et Liévin. Donc 2020, on était encore dans une phase de déménagement, donc la navette était assez peu utilisée. Et puis plus les années passent, plus ce chiffre ne fait que augmenter. Et ça, on arrive à le faire parce qu'on se coordonne correctement avec nos collègues de Paris, mais surtout parce qu'on a un prestataire de transport qui nous connaît bien et avec qui on vient de renouveler notre marché. Et ce système de navette, il fonctionne bien. C'est un système qui nous permet à nous aussi d'expérimenter beaucoup de choses dans les transports d'œuvres d'art, notamment tout ce qui est conditionnement en matériaux plutôt biosourcés. On essaye d'optimiser nos emballages. En fait, la navette devient un vrai lieu d'expérimentation pour le musée du Louvre pour les transferts et les conditionnements des œuvres d'art. Voilà, je termine sur cette slide-là qui présente un peu le nombre de chercheurs qu'on accueille, d'où ils viennent et aussi les sessions de formation qu'on reçoit. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le CCL est un lieu fermé au public et on ne reçoit que des professionnels du patrimoine, ou alors on est ouvert que pour les journées européennes du patrimoine où là on accueille le public extérieur. Voilà pour le CCL.
Maintenant, c'est Raphaël Bianchi qui est responsable des prêts et des dépôts au Centre Pompidou.
Alors, par contre, où est mon PowerPoint?
Bon, je vais laisser Luc gérer.
Ouais.
être ici.
Oui, ça doit être ça. Alors. Donc, ça marche ce micro ? C'est bon ? Je suis donc responsable des prêts et dépôts au Musée national d'art moderne, centre de création industrielle au centre Pompidou. Je vais vous présenter assez brièvement la collection, les prêts, le principe des prêts, les types de prêts, le processus de décision. Très rapidement, on verra les coûts afférents à ces prêts et il y a quelques slides sur la volumétrie des prêts et des dépôts. Et en conclusion, quelques contraintes et bilans sur cette politique de prêt. Alors, je ne vous présente pas le centre Pompidou, mais si, quand même, c'est l'arrière du centre, une photo qui est relativement peu connue. Vous savez que le centre vient de fermer pour travaux, et ce, pour une durée estimée à 5 ans. Je vous présente très rapidement la collection, qui est une collection de vastes ensembles monographiques avec une représentation de grands fonds, mais aussi de grands mouvements. Donc ça, ce sont des photographies du 5e et du 4e étage du centre lorsqu'il était encore ouvert. Comme vous le voyez, la variété des œuvres, des supports, des volumes, des techniques est assez majeure. Là, il s'agit d'une photo de l'atelier Brancusi qui rentrait par legs à l'État et qui figurait sur la piazza du centre. La collection est assez importante. Elle était de 17 000 numéros lorsque la collection du Musée national d'art moderne est arrivée au centre Pompidou lorsqu'il a été fondé. Et maintenant, nous sommes à peu près à 150 items. C'est un peu difficile de réussir à identifier le nombre d'œuvres puisque nous avons de plus en plus d'œuvres constituées de séries. Donc, le principe des prêts, donc déjà le service des prêts et dépôts est chargé de mettre en œuvre la politique de prêts. Elle est rattachée directement à la direction du Musée national d'art moderne et elle est très engagée dans une programmation nationale et internationale. Et s'ajoute aux prêts courants qui ont toujours été extrêmement importants au centre une politique de prêt à des partenaires mais aussi à des antennes. Déjà peut-être définir les prêts et les dépôts assez rapidement. Il s'agit de mettre à disposition temporairement un bien culturel. Le prêt vise à soutenir le prêt d'une exposition temporaire alors que celui du dépôt complète une collection permanente d'une institution sur une durée plus longue. On commence au centre par les prêts internes, bien qu'en ce moment il n'y en ait pas, puisque le centre est fermé, mais nous retournerons à ces prêts dès 2030 ou 2031, lorsque nous ouvrirons. Nous avons aussi le prêt aux antennes. Donc la première antenne qui a été créée au centre, par le centre, était le centre Pompidou-Metz en 2010. Ensuite, Malaga en 2015, le Westbound en 2019 à Shanghai, juste avant le Covid. Canal à Bruxelles doit ouvrir en fin d'année, au mois de novembre, mais nous avons travaillé activement à la préfiguration de ce lieu avec ses partenaires il y a maintenant une dizaine d'années. Et nous venons d'ouvrir un centre Pompidou provisoire à Séoul. Ça date d'il y a un mois et demi. Et nous allons bientôt ouvrir le centre Pompidou francilien Fabrique de l'Art, qui est plus ou moins l'équivalent de Liévin, mais qui sera à la fois un lieu de réserve, mais aussi un lieu de programmation culturelle. Le bâtiment va ouvrir cet automne, mais il sera vide et la première exposition est prévue au mois de mars 2027. Ce qui nous fait cette année à peu près 50 ouvertes en une quinzaine d'années et donc ça nous fera 6 l'année prochaine. En plus des antennes, on développe des partenariats pour des expositions. Donc sur le territorial, c'est plutôt des partenariats auprès de villes, auprès d'institutions ou auprès de régions. Par exemple, on a développé un partenariat avec la métropole de Toulon, avec une convention pluriannuelle pour faire des expositions de design. C'est ajouté à ce partenariat le musée des arts décoratifs et le mobilier national pour faire des expositions toujours autour du design, mais pour agréger ces trois collections pour cette programmation. On a, plus proche de vous, signé une convention triennale avec Villeneuve-d'Ascq qui vient d'ouvrir pour faire des expositions sur les fonds modernes. Et vous avez dû voir l'exposition Kandinsky qui vient de fermer ses portes. On a aussi développé un peu de partenariat avec la ville d'Auxerre pour programmer des expositions dans l'abbaye de Saint-Germain autour de la parole et du son. Et depuis 3 ans, on développe un partenariat avec le Centre Val-de-Loire. Donc là, c'est plutôt un partenariat sur toute une région où on programme, on prête des œuvres pour une programmation qui est définie par la région. On prête des œuvres dans des lieux muséaux ou pas. Donc ça va d'un musée à un centre d'art à un espace un peu plus atypique autour d'une thématique qui est définie pour chaque saison dans le Centre Val-de-Loire. On vient de conclure aussi un partenariat avec le Centre des musées nationaux pour faire des expositions dans des lieux non muséaux comme le monastère de Broux, la Villa Noailles, et la prochaine exposition aura lieu, vous voyez en bas, au Panthéon, et l'exposition doit ouvrir cet automne. On a également conclu un partenariat avec le ministère de la Culture et Art Explora pour aider à la programmation du MUMO, qui est donc un camion musée qui circule en région. Et on en est à la 8e saison. Autre partenariat, on a des partenariats à l'international, une convention pluriannuelle qui a été reconduite avec la Caixa Forum pour programmer des expositions issues de nos fonds, divers fonds. Ça peut être des fonds modernes comme ça peut être des thématiques plus transversales qui engagent aussi bien du design, de l'architecture, de la photo. Et ces expositions tournent dans les différentes galeries du Caixa Forum sur tout le territoire espagnol. Nous avons récemment aussi conclu un partenariat avec le H-Art Museum, qui était l'ancien lieu d'exposition à Amsterdam, qui avait conventionné avec le musée de l'Ermitage pour sa programmation et qui, à la suite de la guerre, a mis fin à ce partenariat. Donc, dans un délai extrêmement court, on a conventionné avec ce lieu alors qu'on n'était pas encore fermé pour programmer 5 grandes expositions issues des collections modernes. Donc, c'est Kandinsky, Brancusi, Léger, Surréalisme. Et enfin, on participe activement à l'accord intergouvernemental avec le Louvre à Abu Dhabi, principalement pour des prêts d'œuvres dans les galeries, avec des rotations chaque année, mais aussi pour la programmation d'expositions. On a programmé il y a quelques années une exposition sur l'école de Paris, et la prochaine exposition sera sur Kandinsky en 2029, si je ne me trompe pas. Par ailleurs, nous organisons aussi des expositions hors les murs en France et à l'international qui sont principalement issues de nos collections et qui sont curatées par nos conservateurs autour des grands fonds, généralement monographiques, mais aussi des projets thématiques et transversaux. Et l'ensemble de ces projets que nous avons vus jusqu'ici relevaient des commissariats, des conservateurs et des attachés de conservation du Musée national d'art moderne. Nous avons aussi des projets d'exposition plus territoriaux. On a l'année dernière, tout près d'ici à Lille, présenté la collection au Tripostal de Lille, une exposition aussi à la Philharmonie, toujours autour de Kandinsky. Et l'année dernière, une exposition couleur au Grimaldi Forum, dont Mariolina vous parlera plus précisément. Et nous inaugurons en fin d'année au Musée des Beaux-Arts de Lyon une très belle exposition sur le musée sentimental. Il s'agira d'un dialogue de collection entre les grands fonds du centre, mais aussi les collections du Musée des Beaux-Arts de Lille et du Musée des Beaux-Arts de Lyon et du MAC de Lyon. Nous continuons à avoir une politique de prêt pour les prêts courants. Donc il s'agit là de commissariats externes. On les a quand même nettement réduits ces dernières années pour pouvoir mener à bien le déménagement des collections hors du centre, mais aussi le prochain déménagement qui est en cours de préparation, qui est d'intégrer nos œuvres dans les réserves du centre Pompidou francilien dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais malgré tout, on continue à avoir une politique de prêt auprès de partenaires historiques et essentiels, et notamment à la faveur de négociations de contre-prêts pour notre programmation. Et par ailleurs, nous continuons à avoir des dépôts, à gérer des dépôts et quelques prêts longue durée, qui est plus ou moins l'équivalent de dépôts pour les collections permanentes de musées dépositaires, principalement territoriaux, mais nous avons quelques dépôts dans des ambassades et ailleurs. Donc là, vous avez des exemples d'emprunteurs, donc ceux que je vous ai évoqués, donc tous ces partenaires, mais aussi d'autres types d'emprunteurs. Et ce que je voulais vous dire, c'était surtout que ces emprunteurs qui étaient majoritairement occidentaux autrefois, avec des calendriers similaires, on savait qu'on avait toujours des expositions de rentrée, des expositions de janvier, des expositions du printemps-été, avec des formats d'exposition généralement de 3 à 4 mois, nous permettaient de libérer les œuvres quasiment toujours à la même période. Malheureusement, avec le temps, le fait que ces partenaires se soient mondialisés, on s'est retrouvé avec des calendriers beaucoup plus différents et plus flexibles. La nécessité pour eux de faire itinérer aussi les expositions, on s'est retrouvé avec des engagements d'œuvres beaucoup plus longs. Ça complexifie très lourdement la question de la disponibilité des œuvres, qui est quand même un sujet majeur au Centre Pompidou. Vous verrez avec la volumétrie des prêts la raison pour laquelle je vous dis ça. Alors, le processus de prêt, assez rapidement, je vais essayer de vous le présenter. Donc, la demande de prêt est centralisée au service des prêts. Elle est enregistrée et préanalysée dans la base de gestion des collections et diffusée au secteur de collection. La chaîne des prêts est assez importante au Centre Pompidou. Elle mobilise à peu près 80 personnes dans divers services et départements du centre. Et le service des prêts organise les comités de prêts et valide les arbitrages. On est à la fois acteur et observateur des relations extérieures du musée. Et on étudie en permanence l'activité et l'analyse des flux et le recyclage de l'information en interne auprès de différents services comme la direction générale, la direction du développement économique international, qui est la direction qui va faire itinérer, ou en tout cas qui va commercialiser, je pense qu'il faut employer le terme, les expositions, notamment auprès de partenaires internationaux que je vous ai montré auparavant. Et aussi, nous échangeons pas mal avec la direction de la communication sur cette politique de prêt. Donc là, vous avez sur le processus de prêt les grands acteurs de la chaîne des prêts, avec sur la ligne horizontale les personnes qui siègent au comité de prêt. Le comité de prêt se tient toutes les 4 à 8 semaines, donc on en a 8 par an. Ils sont précédés d'un pré-comité de prêt que j'organise avec la direction du musée pour pouvoir examiner l'ensemble des besoins et des demandes et établir l'ordre du jour de ce comité de prêt qui va se tenir en présence des différents secteurs de collection, mais aussi les services chargés de la mise en œuvre de ces prêts, aussi bien au musée qu'au centre, puisque certains relèvent d'autres directions. Alors, comment se passe ce comité de prêt ? C'est une instance consultative qui oriente les décisions de la direction du musée et qui examine différents critères. Donc, le premier critère, c'est bien sûr la disponibilité des œuvres avant de pouvoir arbitrer. Ensuite, c'est évidemment la pertinence scientifique du projet, la pertinence d'agréer ou d'allouer une œuvre à un projet plutôt qu'à un autre en fonction du contenu de la proposition. Et bien sûr, autre critère, c'est l'état de conservation de l'œuvre ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour pouvoir préparer l'œuvre, mais aussi les garanties de sécurité et de conservation prévues pour le transport et le lieu d'exposition, la capacité du demandeur à gérer des prêts. Je pense que ça, c'est un sujet que Mariolina va certainement évoquer. Et bien sûr, les délais pour organiser le transport, puisque selon la distance, selon les problématiques, selon le délai de demande de prêt, on peut plus ou moins mettre à disposition des œuvres. Et outre la question de l'état et de la préparation des œuvres, pour la mise à disposition, les problématiques qui sont discutées sont généralement des questions, des problématiques récurrentes, sont les questions de taille et de volume des œuvres. Vous verrez que c'est plus ou moins facile à mettre en œuvre. Des questions de complexité d'installation, comme le mur breton ou le magasin de Ben, le magasin de Ben vient d'être installé à Lyon et le mur breton est actuellement à Metz. Ce sont des pièces qui bougent extrêmement rarement. Évidemment, à la faveur de la fermeture, on est en capacité de faire circuler certains fonds qu'on ne faisait pas bouger. Mais ce n'est pas neutre en matière de mobilisation des équipes et de capacité d'accueil par les emprunteurs, bien sûr. Il y a bien sûr des questions de fragilité des œuvres qui se posent. Là, vous voyez une œuvre en laine, une en bois et une en feutre. Mais aussi, nous avons des questions juridiques et des questions de droit de monstration. Par exemple, pour le film, on a une très vaste collection d'images animées. Mais selon les supports acquis et les contrats d'acquisition, on a la capacité à prêter ou pas ces films. Donc, ils figurent dans notre catalogue, mais très souvent, ils ne sont pas prêtables, ou si nous avons les droits de monstration, la question d'avoir une copie numérique en bon état aussi se pose, et en tout cas est évoquée en comité de prêt. Vous avez sur cette slide tous les frais afférents au prêt qui doivent être supportés par l'emprunteur. Et il s'agit là des principaux freins à la circulation des collections et qui mènent à de fréquentes annulations de prêts, souvent très tardives au moment où les estimations de transport parviennent à l'emprunteur. C'est un sujet chez nous. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer sur les slides. Donc la volumétrie des prêts, elle est majeure au Centre Pompidou. On examine à peu près 700 à 800 demandes de prêts par an. Ça représente un total de 10 à 15 000 œuvres, puisque chaque examen de prêt porte sur chaque œuvre et pas sur chaque dossier. Les refus restent minoritaires et au fur et à mesure des échanges avec les emprunteurs, il y a énormément d'annulations et ça nous fait à peu près 5 à 6 000 prêts effectifs par an. On prête 50% des prêts des musées nationaux français. Donc, la moitié des prêts des musées nationaux, ce sont des prêts du Centre Pompidou. Et le président du Centre Pompidou, Laurent Lebon, a coutume de dire que nous sommes le plus gros prêteur mondial. C'est très probable. Je vous montre ce diagramme que je trouve assez intéressant sur l'évolution des prêts. Donc vous avez tout en haut du diagramme le volume des prêts examinés. Vous voyez que le volume ne cesse d'augmenter, notamment en 2025 à la faveur de la fermeture. Nous avons eu un pic important en 2017 puisque c'était l'année des 40 ans du centre. Nous voyons qu'en 2020, malgré le Covid, le volume des prêts est resté important. Et vous avez en bleu le volume des prêts refusés, donc c'est ce que je vous disais, assez peu de refus. En jaune, les prêts effectifs, et le sujet qui me tient à cœur, c'est en vert, le nombre de prêts annulés, qui est quand même la face immergée de l'iceberg du travail des équipes, que personne ne voit, et qui donne l'impression à tout le monde d'être débordé. Et ça n'est pas une impression injustifiée. Donc, on voit qu'on atteint les 50% d'annulation, qui pour moi est un gros, gros sujet. Et là, vous avez l'équivalent du diagramme et vous avez le ratio. Donc là, c'est uniquement les prêts effectifs avec le ratio territorial international. Donc, on voit en 2017... Toujours les 40 ans du centre, il y a une politique territoriale un peu plus appuyée. Donc tout d'un coup, la partie rouge est un peu plus importante, alors que historiquement, l'international est un peu supérieur au territorial. 2025, fermeture, le territorial reprend le dessus. À chaque moment important, le territorial prend le dessus. La volumétrie des dépôts, je vous en parle rapidement, on gère à peu près à plus de 5000 dépôts, près de 200 dépositaires. C'est un paramètre supplémentaire dans la gestion des prêts, puisque une bonne partie de ces dépôts sont des œuvres majeures de la collection, des grands fonds. Et qu'à chaque exposition, les dépositaires sont sollicités. Donc ça représente énormément d'échanges, de négociations avec les dépositaires et les emprunteurs pour se mettre d'accord sur une décision commune. Ça représente énormément d'échanges et de complexité de travail pour les régisseurs qui doivent, en plus de centraliser et organiser le départ des œuvres depuis le centre, doivent aussi être en contact régulier avec ces dépositaires. Par exemple, Mario Lina, qui va bientôt travailler sur une exposition Chagall, une bonne partie du fonds Chagall est en dépôt. Ça représente aussi énormément de transferts entre les dépositaires et le centre. On vient d'ouvrir une exposition du film aux franciscaines. La moitié de l'exposition est en dépôt en région, puisque la veuve de Raoul Défi avait fait un legs à l'État qui est donc porté sur nos inventaires, mais qui a été distribué en dépôt sur l'intégralité du territoire français. Donc la moitié de l'exposition vient de dépositaires. Ah ben c'est tout, j'ai plus de slides, mais je voudrais quand même vous parler des contraintes et un rapide bilan de tout cela. Pour redire ce que je vous disais, la mondialisation et l'accélération des demandes ces dernières décennies On sait que c'est une espèce de course en avant sur la gestion des prêts, a fortiori avec le taux de désorganisation que vous avez vu sur la partie annulation. Et c'est perçu par les équipes, et à juste titre, comme un frein à un travail de fond sur la collection, puisque malheureusement les œuvres non reproduites sont insuffisamment sollicitées, ce qui fait que c'est un peu toujours les mêmes œuvres qui sont sollicitées, les plus connues. Le volume des demandes ainsi que celui des prêts accordés et le manque d'anticipation des demandeurs sont perçus comme très préjudiciables au bon déroulement de ces examens, et ça c'est une réalité. On a beaucoup de difficultés à concilier l'octroi de prêts courants, qui sont les prêts auprès de partenaires extérieurs, qui généralement sollicitent des œuvres très spécifiques sur, pour un projet très pointu, et généralement nos grands fonds modernes sont mobilisés auprès des antennes que vous avez vues ou auprès des partenaires internationaux qui veulent toujours les mêmes fonds, Kandinsky, Matisse, Chagall, et on a beaucoup de mal à concilier la gestion des deux types de prêts. Les calendriers, la durée des prêts, donc cette durée qui évolue de... ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'auprès des antennes, on fait circuler des expositions, mais on est aussi engagé à faire des prêts longue durée sur une durée de 1 an et demi, 2 ans, qui mobilise et qui gèle des œuvres importantes des collections sur une très longue durée. Ça rend les arbitrages extrêmement complexes de bloquer des œuvres sur des très longues durées, et en même temps nos engagements auprès de ces partenaires supposent de leur octroyer des œuvres majeures sur généralement c'est sur des thématiques, et donc ces calendriers de 1 an et demi, 2 ans, parfois 4 mois, parfois 8 mois, complexifie la question de la disponibilité des œuvres. On est obligé de faire des réunions planning tous les mois avec diverses équipes pour faire un jeu de Tetris, pour voir ce qu'il est possible de faire à chaque fois qu'on est sollicité par un partenaire extérieur pour pouvoir faire une exposition. Et les 40-50% d'annulation, ma bête noire, nous bloquent souvent inutilement des œuvres, puisque généralement ces œuvres sont libérées au mieux 6 mois avant l'ouverture, très souvent 2-3 mois avant l'ouverture. Ça, c'est un vrai sujet. Évidemment, les opérations de prêt qui se multiplient entraînent des conséquences néfastes en termes d'empreinte carbone. Vous aurez compris qu'avec le volume de flux que nous gérons, nous ne pouvons pas faire du maritime. Et qu'il faut trouver un équilibre subtil entre conservation et diffusion dans le fait de prêter, puisque le prêt ne doit jamais conduire à la dégradation d'une œuvre. Mais paradoxalement, si le prêt fragilise quelque peu une œuvre, il contribue aussi à sa meilleure connaissance et à sa renommée, et donc à son appropriation. Il permet également de mieux comprendre la matérialité d'une œuvre et donc peut favoriser sa préservation. Et on en a un très très bon exemple en ce moment, puisqu'il s'agit de l'atelier Brancusi qui n'a jamais bougé, puisque les dispositions testamentaires de l'artiste étaient que l'intégralité de l'atelier soit présentée tel qu'il était au moment du décès de l'artiste. Et à la faveur de la fermeture, on a fait une première exposition au centre qui nous a permis de mieux connaître ce fond extrêmement complexe à déplacer, extrêmement fragile. Et on est engagé dans une circulation de ce fonds qui continue à rester un sujet complexe, mais qui contribue à une bien meilleure connaissance de ce fonds. Et je suis certaine qu'à la réouverture du centre, on sera beaucoup plus souple sur les prêts de ces œuvres. Je laisse maintenant la parole à Mariolina, qui est régisseur au Centre Pompidou.
Là, comment mettre en grand écran
Tout en bas. Présentation.
Sur le côté ? Non, pardon.
Présentation.
Mais très bien, Léna.
Est-ce que ça peut être long qu'on passe la pause déjeuner parce que le resto risque d'être un peu agressif et on reprend juste à ce moment-là.
Aucun problème.
Après le déjeuner. Ouais. Ok. Donc on fait une pause resto et on reprend juste.
Alors, changement de programme. On va, l'intervention qui devait avoir lieu maintenant se fera après le repas. Donc on continuera exactement le même déroulé, mais voilà, après cette coupure. Et donc le retour.
On va manger. On va...
Voilà.
Si on veut poser des questions, on va
oui.
On
le fait peut-être.
Non,
une question
poser maintenant.
Bon, mais alors on peut poser la question après. Je voulais, Candice Reka, poser la question quels sont les inconvénients. Enfin, je sais que vous avez un devoir de réserve, hein, bien sûr, mais vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, 200 km de Paris. Vous avez évoqué fort habilement et d'une façon tout à fait stimulante la visite des conservateurs, des scientifiques au Louvre-Liévin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les inconvénients d'être à 200 km ?
Moi, j'en vois pas, parce que je suis à 200 km. Donc, je peux pas porter la parole de mes collègues parisiens, parce que je trouve que maintenant, au centre de conservation du Louvre, on propose quand même des conditions de conservation pour les œuvres qui sont bien meilleures que ce qu'on pouvait proposer à Paris. L'inconvénient, ça reste quand même qu'à l'époque où les collections étaient au palais, les conservateurs descendaient dans les sous-sols parisiens, certes en zone inondable, mais ils avaient leurs collections appartement. Aujourd'hui, je pense que le CCL il offre vraiment toutes les conditions pour accueillir et les œuvres et nos collègues de Paris dans les meilleures conditions possibles. Donc finalement, des inconvénients, j'en vois assez peu, parce que je suis du côté du Nord.
Moi, je suis conservateur de musée, et j'ai travaillé au Louvre, comme vous le savez peut-être, et simplement, je me suis posé la question, alors je suis un peu provocateur, hein, et vous pouvez ne pas répondre si ça vous gêne. Je me suis posé la question, est-ce qu'il n'aurait pas été possible de trouver un lieu plus proche du Louvre pour réaliser ces réserves qui sont, je souscris totalement à votre raisonnement, hein, absolument formidables en matière de conservation et de travail sur les collections.
Moi, je peux dire quelque chose sur ce sujet, puisque Centre Pompidou, historiquement, on avait des réserves dans le centre, dans les sous-sols. Et par la suite, nous avons eu des réserves sur les boulevards Maréchaux. Donc, ça n'est pas très loin, hein, ça n'est pas à 200 km. Mais rien que cette distance, ça fait que la majeure partie des conservateurs ne vont pas. Ne vont pas vous barrer. Donc, à partir du moment où ça n'est pas directement accessible, je pense que ce soit à 6 km ou à 200, la problématique me semble similaire.
Oui, alors, je ne suis pas tout à fait de votre avis, enfin, j'ai beaucoup apprécié votre intervention, hein. Je pense que, bon, j'ai milité, hein, pour les réserves de proximité concernant le Louvre, et c'est ce qui s'est réalisé. Ça me semblait être une évidence absolue. Après, la question est l'importance de ces réserves de proximité. Enfin, dans le lieu même où sont présentées l'essentiel des collections. Néanmoins, je crois savoir qu'il y a eu d'autres hypothèses qui ont existé, n'est-ce pas, et beaucoup plus proches de Paris. Bon, enfin, je comprends tout à fait que vous ne puissiez pas répondre à cette question.
Non, mais alors je peux répondre.
En valeur absolue, ça, pour moi, ça reste 200 km, ça reste un problème. Voilà.
Alors, en effet, il y a eu des projets où la réserve du Louvre aurait pu être en région parisienne au moment de l'étude de, l'externalisation de la réserve du musée. Pour plein de raisons, c'est des projets qui n'ont pas abouti. Moi, j'étais même pas là quand, quand ces sujets d'échange ont eu lieu. Je pense que la réserve du musée du Louvre à 200 km du palais, ça sera toujours un sujet. Là, maintenant, ça fait 5-6 ans que le centre est ouvert. Ça reste un sujet. Il y a encore des collections qui ne sont pas au CCL parce que des conservateurs ne souhaitent pas, pour plein de raisons, les transférer au CCL. Aujourd'hui, c'est quand même un bâtiment qui fonctionne, une équipe qui fonctionne. Et certes, c'est à 200 km, mais pour autant, le travail et les conditions dans lesquelles elles sont, sont bonnes. Donc moi, je continue à prôner que bah, c'est pas une si mauvaise idée, et puis que ça continue de créer quand même tout un flux d'échanges aussi sur le territoire. Donc certes, on parle beaucoup du Louvre-Lens, mais le centre de conservation du Louvre a quand même une mission d'ancrage territorial du Louvre dans le Pas-de-Calais, et ça c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Donc des réserves de proximité au palais, il y en a quasiment plus, vraiment très très peu, on pouvait les compter sur les doigts de la main. Il y a des réserves de transit pour des œuvres de courte durée, donc qui sont en expo, qui partent en expo, etc. Et ça, pour le coup, on peut dire aujourd'hui que c'est quelque chose qui manque à Paris. La réserve Carrousel, qui est une réserve qui a été créée récemment, qui est une réserve de transit au musée du Louvre, et ben, elle est déjà trop petite pour les besoins du palais.